9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Les autres mecs de la salle, il y en avait pour tous les goûts. Des blessés de toutes les surfaces et profondeurs. Des réservistes surtout, mais des cons dans l'ensemble. Beaucoup ne faisaient que rentrer et sortir, pour la terre ou pour le ciel. 1 sur 3 au moins qui râlaient. C'est du Céline dans le texte. Louis-Ferdinand Céline est blessé sur le front, il s'appelle pas encore comme ça, sur le front pendant la guerre de 14. Il décrit l'hôpital de Fortune où il est admis. C'est extrait de Guerre, roman inédit de Louis-Ferdinand Céline qui va sortir après-demain jeudi aux éditions Gallimard. Dans Le Monde, Jérôme Dupuis écrit « C'est un miracle, le mot n'est pas trop fort ». Et vous n'êtes pas pour rien dans cette sortie, Emmanuel Pirat, bonjour.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes avocat, spécialisé dans les droits d'auteur, ardent défenseur de la liberté d'expression. Vous avez écrit de nombreux ouvrage à ce sujet et vous exercez aussi la fonction d'agent littéraire et artistique dont vous connaissez beaucoup, énormément le métier. Donc Guerre sort jeudi. L'existence même de ce roman est en soi romanesque. Tout commence par 6000 feuillets inédits de Céline, auteur du Voyage au bout de la nuit, feuillets miraculeusement retrouvés. D'abord, pourquoi avait-il disparu? Pour les plus jeunes qui ne savent pas qui est Louis-Ferdinand Céline, il y en a, il faut le situer, ce génie littéraire.
En 1944, Louis-Ferdinand Céline est un des plus grands écrivains du XXe siècle, mais il est collaborationniste. Il collabore avec le régime de Vichy, de Pétain. Il écrit des pamphlets antisémites. Et en juin 1944, le débarquement s'annonce, est organisé très très rapidement, une sorte de fuite, entre guillemets, pour mettre à l'abri tous les zendils du collaborationnisme, du maréchal Pétain, Laval, le Premier ministre, et un millier à peu près d'intellectuels et d'hommes politiques très compromis. Et donc on dit à Céline, tu as une heure, on le prévient, tu as une heure pour faire ta valise, prends le minimum de choses, juste une liquette à pantalon, ta femme que tu as épousée l'année d'avant, Lucette, il prend Bébert son chat et il laisse 6000 feuillets inédits, dont l'équivalent donc de 4 grands livres qu'on ne connaissait pas, et puis plusieurs romans dont on connaît la version imprimée, mais dont on découvrira le manuscrit. Et donc il s'enfuit avec tout cela, en pensant ça, en n'ayant aucune idée de combien de temps va durer cette escapade. Et cette virée va l'amener jusqu'en 1951, puisqu'il partira donc à Sigmaringen rejoindre Pétain, un château en quelque sorte que les Allemands mettent à leur disposition, et puis c'est la débâcle, c'est la fuite, il passe au Danemark, il sera arrêté au Danemark, emprisonné, et réussira à revenir malgré l'épuration en France, donc en 51, persuadé que ses manuscrits ont disparu, ont été jetés par la fenêtre, pillés par des voleurs, la résistance, peu importe, et qu'il ne les verra jamais.
Il les avait laissés dans son appartement rue Girardon, dans le 18e. Montmartre. Il y a un personnage qui est assez important, il s'appelle Oscar Rosambly. D'abord, juste un mot, Céline, dans plusieurs de ses lettres, faisait état de ses textes, donc on savait qu'ils existaient, d'autres n'y croyaient pas trop. Mais d'abord, qui est Oscar Rosambly et comment on arrive à votre présence ici?
Bien sûr. Céline a soupçonné que ses textes avaient pu être soustraits, en quelque sorte, embarqués de l'appartement et non pas détruits, jetés par la fenêtre. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes ont visité cet appartement après la fuite de juin 44. En juin 44, donc, il s'enfuit vraiment avec tous, en pensant qu'ils seront peut-être de retour pendant l'été. Et puis, le temps dure et entre-temps, des gens rentrent dans l'appartement. Céline savait qu'il avait un voisin du dessous, de 2 étages en dessous de chez lui, qui était résistant. Et il écrit dans des pages journalistiques, de journal, il écrit que le salaud du premier étage va sans doute mettre à sac son appartement. Il s'avère que plusieurs personnes défileront dans cet appartement. On connaît les noms de Rosambly, supposé se présenter comme policier, vaguement libérateur de Paris, en réalité compromis lui aussi dans des affaires assez complexes sous l'occupation, et dont on sait qu'il a pris en quelque sorte des meubles dans l'appartement. Un autre personnage qui s'appelle Rosambla. On connaît toute une série de personnages, mais on n'a pas bien fouillé et réfléchi à ceux qui sont rentrés avant, c'est-à-dire ceux qui sont rentrés pendant que les Allemands étaient encore dans Paris, pendant qu'on extradait en quelque sorte ou mettait à l'abri les collabos. Il y a des gens qui sont rentrés dans cet appartement. Mon client, Jean-Pierre Thibaudat, est l'enfant de gens qui sont en contact avec cette histoire. C'est le fils de résistants, de grands résistants, et un journaliste qui a détenu secrètement ses manuscrits pendant 15 ans.
Alors justement, j'arrive à l'épilogue. Ces feuillets réapparaissent en 2021. De quelle manière ?
En 2021, nous parlons de ces manuscrits au Monde, au journal Le Monde, qui en fait la une et quatre pages, et ça sera une une mondiale avec la révélation, la mise à jour
papier de
cet
Dupuis.
Incroyable papier de Jérôme Dupuis, excellent papier
quand
de Jérôme
nous,
Dupuis.
Quand vous dites nous, c'est-à-dire Jean-Pierre Thibaudat, oui. Qui était déjà votre client, ou qui vient vous voir une fois qu'il a retrouvé ces manuscrits. Comment ça s'est passé ?
Qui vient me voir en fin du confinement 2020, il y a presque deux ans. Jean-Pierre Thibaudat m'envoie un email en me disant on ne se connaît pas, mais plusieurs personnes m'ont parlé de vous en très grand bien comme spécialiste des questions d'archives, de droits d'auteur, de trésors littéraires. Est-ce que je peux venir vous voir ? Et moi, je sais qui est Jean-Pierre Thibaudat, ancien critique de théâtre à Libération, 45 ans de journalisme, des livres sur le théâtre. Bon, je suis ravi de le rencontrer, pensant qu'il va m'apporter un ou deux feuillets, éventuellement de Proust, quelque chose d'extraordinaire, mais un ou deux feuillets. Et puis, je viens le chercher dans la salle d'attente de mon cabinet, après avoir fixé rendez-vous. Il était avec deux énormes valises. Je lui dis, mais je vous ai demandé d'apporter le document dont on a parlé, pas de vous installer dans mon cabinet. Et avec un petit sourire goguenard, il me dit, je vais vous montrer. Et il ouvre deux valises, et dedans, 6000 pages inédites, manuscrites, avec des pinces à linge, comme le faisait Céline, qui lui permettent de finir un paragraphe et de tenir une liasse comme ça. Et cet extraordinaire trésor, en m'inquiétant tout de suite de savoir s'il existe une copie, mais dit non, pas du tout. Donc j'ai pris un taxi pour venir, pour éviter que si jamais il y avait un problème avec le bus, j'en sais rien, enfin là, tout ça soit perdu. Valeur, on va être très concret, financière, 40 millions d'euros peut-être, 25 à 40 millions d'euros. Valeur littéraire absolument incommensurable. La moitié de l'œuvre cachée, enfin la moitié de l'œuvre cachée, la moitié de l'œuvre d'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Aussi collabo soit-il. Hein.
Parce que j'ai parlé de guerre, mais il y a 6000 feuillets et il y a deux ou trois autres romans qui vont arriver. On va en parler, mais il y avait une condition. Pourquoi il avait ces documents, Jean-Pierre Thibaudat, depuis 2006? C'est un personnage anonyme qui lui est remis, anonyme pour nous. Est-ce que le personnage qui les lui remet est anonyme pour vous aussi? Je ne vous demanderai pas de secret professionnel.
Non, il ne l'est pas pour moi. Il sera anonyme pendant encore quelques temps, jusqu'à ce que Jean-Pierre Thibaudat décide, au moment qu'il jugera opportun, de raconter toute l'histoire. Ce qui est certain, c'est que les pistes avancées sur Rosambly et Rosanda sont fausses. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. La réalité, c'est que Jean-Pierre Thibaudat est contacté quand il est journaliste à Libération par des gens qui le connaissent de famille. Mmh. Sa mère est résistante, importante, elle réussit à s'enfuir après avoir été arrêtée par la police de Vichy. Il a pris le nom de plume de sa mère, il ne s'appelle pas Thibaudat de naissance, en hommage à cette mère qui a épousé un autre résistant important, moins important qu'elle, entre guillemets, si je fais une hiérarchie comme ça, assez simple. Et puis Jean-Pierre Thibaudat, il écrit dans Libération, donc journal de gauche a priori, en tout cas dans les années il y a une quinzaine d'années. Et puis enfin, il a écrit deux articles sur Céline pour une pièce de théâtre qui s'appelle L'Église, qui a été adaptée et sur laquelle il a été rencontré Madame Lucette Destouches, la veuve de Céline, qui s'était enfuie avec Céline donc en 1944 en Allemagne puis au Danemark.
Justement, puisque vous parlez d'elle, il y a une condition qui n'a pas encore été dite. On marque une courte pause, on revient avec Emmanuel Peyra. On parle de cette condition qui fait qu'aujourd'hui, après-demain, Guerre sera publiée par Gallimard. C'est un Céline inédit. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie d'Emmanuel Peyra, il est avocat spécialisé notamment dans les affaires littéraires, dans les affaires de droit d'auteur. Il est l'avocat de Jean-Pierre Thibaudat, journaliste de Libération, qui a remis 6000 feuillets signés de la main de Louis-Ferdinand Céline. 6000 feuillets absolument passionnants, écrits mais jamais publiés, dont le premier roman tiré de ces textes sort après-demain chez Gallimard. Ça s'appelle « Guerre », je l'avais dit. Il y avait une condition qui avait été mise par la personne anonyme dont vous connaissez le nom, mais pas nous, à Jean-Pierre Thibaudat. Pour lui donner ces documents, il fallait qu'il sorte à une condition.
Bien sûr. Les gens qui prennent contact avec Jean-Pierre Thibaudat à Libération donc ont toutes les certitudes que politiquement il ne sera pas du côté, entre guillemets, de Céline, idéologiquement, ou de ses héritiers, et justement demandent que jamais du vivant de Lucette Destouches, la veuve de Céline, partie avec lui rejoindre Pétain et les Allemands à Sigmaringen, que jamais elle ne perçoive le fruit, en quelque sorte, qu'elle ne gagne d'argent avec la publication de ses textes. Donc la condition, c'est attendez, ne révélez pas notre identité, et sous le secret, en quelque sorte, des sources des journalistes, ne dites pas qui on est, gardez tout jusqu'à ce qu'elle meure.
Alors, il a ses feuillets en 2006, et Lucette Destouches meurt à 107 ans en 2019.
Oui, c'est-à-dire à l'âge de 107 ans, c'est-à-dire bien plus tard que ce que les uns et les autres, je pense, avaient estimé ou pensé.
Imaginez. Voilà. Entre-temps, qu'a-t-il fait de ces documents, Jean-Pierre Thibaudat? Il les a laissés tels que, ou il a commencé à les retranscrire?
Oh, il raconte très bien, de façon amusante, au début, il dit qu'il n'avait pas le temps, c'est-à-dire de regarder regardez ce que c'est. On lui remet une caisse en bois, l'équivalent d'une caisse en bois. Enfin, il dit ça a séjourné dans une caisse en bois, visiblement dans une cave. Et c'est parce qu'il a fallu vendre la maison où était cette cave que les enfants des gens qui avaient pris ces manuscrits doivent s'en dessaisir. Ils doivent vendre, hein, mettre leurs parents ailleurs, en quelque sorte. Et donc, se retrouvent avec c'est un mètre cube.
Mais lui, il a retranscrit ou
pas ? Jean-Pierre Thibaudat se penche dessus au fur et à mesure, commence à découvrir de quoi il s'agit véritablement, et s'aperçoit donc qu'il y a là des inédits, et s'achète l'équivalent de 900 livres pour toutes les éditions possibles, scientifiques, critiques de la Pléiade, les annotations, la façon de transcrire, et retranscrit tout fidèlement, en faisant la part avec une nomenclature qui est celle de la Pléiade, entre ce qui est inédit, ce qui ne l'est pas, les différentes variantes. 4 grands livres au final en sortent inédits, plus de très nombreux manuscrits importants, plus une correspondance totalement inédite, plus des images d'amoureuses, plus des images de Céline à son mariage qu'on ne connaissait pas, beaucoup de choses qui sont extraordinaires et qui feront évidemment la joie de tous les Céliniens, mais aussi de tous les lecteurs, au-delà des admirateurs de Céline.
L'affaire se complique parce que les ayants droit de Céline décident de porter plainte pour recel de vol. Ils mènent l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris. Alors là, il y a 2 versions, Emmanuel Pierrat. Jean-Pierre Thibaudat aurait remis de son plein gré les archives aux autorités, mais d'autres, la police est venue saisir des manuscrits. En général, la police vient pour de l'argent, des bijoux, de la drogue. Là, c'était des papiers.
Comme Lucette Détouche est morte en décembre 2019, quelques mois avant deux, trois mois avant le confinement, Jean-Pierre Thibaudat s'est plongé une dernière fois dans ses manuscrits au moment du confinement. Et donc, il vient me voir en me disant « Elle est morte, maintenant je peux révéler. » Et je lui dis « La seule façon, c'est de contacter les héritiers, les 2 ayants droit qui ne sont pas des membres de la famille de Céline. Ce que je fais, et puis ensuite ils le prennent mal entre guillemets, pensant qu'ils peuvent tout garder dans un coffre à leur tour, et là tout cacher alors qu'il n'y a plus d'obstacle à leur publication. Ça se terminera avec une plainte pour recel ahurissante, puisqu'on parle de 1944, de résistance, d'un moment où c'est encore l'occupation allemande. La plainte sera classée sans suite. Jean-Pierre Thibaudat et moi-même apporterons les manuscrits à la police, à la suite de leur recherche. Ils viennent me voir en disant, oui, Jean-Pierre Thibaudat, ils ne savent même pas que c'est un pseudonyme. Enfin, c'est plutôt amusant. Ils le mettront sur écoute pendant un an. Ils vont le suivre de festival en festival de théâtre. C'était assez drôle. Et ça se termine dans leur bureau où moi, je leur dis gentiment, par pitié, ne mettez pas les 6000 feuillets par terre parce qu'ils voulaient les compter sur la moquette. C'est un grand écrivain. Leur patronne arrive, commissaire de police, me dit c'est très émouvant. Et le flic de base me dit à la fin, c'était plutôt mignon. Il paraît que ça donne très mal au crâne. J'ai jamais voulu le lire. Mais ben là, il faut que j'y m'y mette. Par quoi je commence, Maître Pierrat ?
Donc, alors, voilà. Un mot, on va parler de littérature. C'est un chef-d'œuvre, on peut dire
c'est
ça.
C'est un chef-d'œuvre, bien sûr. Il y a 4 chefs-d'œuvre dedans. Il y a celui-ci qui sort après-demain, qui s'appelle Guerre, qui démarre lorsque Louis-Ferdinand Céline est blessé au front. On connaît cet épisode, on savait qu'il avait existé, il ne l'avait jamais raconté, donc il se met en scène. Il se met en scène à l'hôpital de campagne, il se met en scène en train de voir une infirmière qui fait du bien aux morts, ou en tout cas aux mourants, se servant de la rigor mortis, et il la fait chanter, la voyant s'envoyer en l'air avec les cadavres ou les mourants, et lui demande à son tour de lui faire du bien. Voilà une histoire entre Héros et Thanatos, extraordinaire, sur fond de guerre de 14-18, et qui mène Céline jusqu'au moment où il part à Londres, qu'on connaît à nouveau. Voilà. Il y a 3 autres grands livres inédits qui figurent dans cet ensemble extraordinaire. C'est la plus grande découverte littéraire jamais faite au monde.
Avec des passages érotiques très crus qui n'ont pas été censurés.
Non, qui n'ont pas été censurés, mais c'est du très grand Céline, hein, vraiment.
On est bien d'accord. Merci beaucoup Emmanuel Pierrat. Je rappelle la sortie de Guerre, c'est inédit jeudi aux éditions Gallimard. Merci d'avoir été avec
Merci
nous
à vous,
en
Philippe
direct,
Vandel.
En exclusivité. Culture Média continue évidemment, après les infos de 10h. Notre invité, c'est un écrivain aussi, Bernard Werber. En 30 ans, il a écrit 30 romans et plus de 30 millions de livres à travers le monde, traduits dans plus d'une trentaine de langues. Il publie son autobiographie, s'appelle Mémoire d'une fourmi. Et puis dans les indispensables, Stéphanie Loire va nous proposer un hommage à la reine de la nuit, Régine, qui nous a quittés ce dimanche. Hommage en musique au travers de ses titres cultes, certains signés Gainsbourg. À tout de suite.